Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « Patronne, mais pas que ». Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteure et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussites, de challenges, mais aussi d'échecs. Nous vivons dans une société trépidante, souvent l'idée représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patronne mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Céline Brucker. Bonjour et bienvenue Céline.
Bonjour Cyrielle.
Alors tu viens en plus d'être nommée, je te félicite, on te félicite, directrice générale de L'Oréal France. C'est mérité, tu as quand même plus de 20 ans de carrière dans la maison, donc félicitations. Tu es née en région parisienne avec une éducation, comme tu aimes le rappeler, comme un bouillon culturel, élevée en Asie, au Moyen-Orient, avec une mère américaine. Tu as 49 ans, tu as deux enfants, 17 et 19 ans, et tu es diplômée de HEC avec une spécialisation dans la finance. Alors j'aimerais savoir, connaître, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petite? Quel était ton rêve de petite fille?
Alors, je ne sais pas si c'était un rêve très précis, mais je pense que j'avais déjà une conscience de l'envie de m'accomplir en tant que fille. Je venais d'une famille assez féminine et pour autant, je sentais quand même une famille dans des codes un peu bourgeois. Et je sentais que quand même, en tant que fille, tout ne m'était pas nécessairement acquis en termes de possibilités.
Comme quoi, intéressant.
Sur ce que je pouvais devenir, que j'étais dans un premier temps dans une école de filles. Et clairement, c'était encore ce temps où les filles passaient leur bac et devaient se marier, etc. Ça paraît archaïque comme vision, mais moi, c'était quand même un peu l'univers dans lequel je grandissais. Avec néanmoins une maman qui, elle, voulait vraiment, qui avait deux filles, ma sœur et moi, et qui voulait absolument nous transmettre le besoin d'être des femmes indépendantes, de devenir des femmes indépendantes. Et néanmoins, voilà, j'étais élevée dans ce milieu où c'était pas la norme. Et donc, j'ai eu le sentiment que j'allais avoir un devoir, un besoin de m'accomplir en tant que petite fille d'abord, ensuite jeune femme un jour, et de m'imposer dans un monde qui, à l'époque, était encore assez masculin sur un plan académique, dans le potentiel académique et dans le potentiel professionnel. Donc, je pense que j'ai grandi et je me souviens, petite fille, d'avoir cette envie d'avoir un destin qui allait être le mien et qui n'allait pas forcément répondre à des codes assez normés encore à l'époque.
Et quel était le métier de tes parents?
Alors, mon père travaillait dans le pétrole, ce qui explique qu'on a été, on a vécu longtemps au Moyen-Orient. Et ma mère travaillait dans le journalisme. Elle avait une émission de radio pour promouvoir la France quand on habitait à Abu Dhabi. Et ensuite, elle a travaillé à l'OCDE. Donc, elle était plutôt dans un monde international.
Alors toi, tu as débuté ta carrière chez L'Oréal aux États-Unis, à New York. Alors comment tu t'es retrouvée aux États-Unis et pourquoi l'univers de la beauté, le leader mondial, L'Oréal?
Alors pourquoi les États-Unis? J'avais la chance d'avoir la double nationalité franco-américaine, américaine du côté de ma mère. Et c'est vrai que j'ai été formée en France. J'ai fait mes études en France, comme tu le rappelais. Et c'est vrai que les États-Unis, pour moi, c'était l'endroit où je voulais démarrer ma carrière, où j'aimerais, et à New York en particulier, parce que j'avais cette image des États-Unis qui me paraît encore fondée, que sky is the limit, que tout est possible aux États-Unis. Quelle que soit l'origine, quelles que soient vos études, quel que soit le milieu dont vous venez, le mérite est vraiment reconnu. Et au fond, j'avais envie, justement, dans cette dimension d'accomplissement que j'évoquais tout à l'heure, que cet accomplissement allait être facilité aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, ça ne tenait qu'à moi, au fond, à ma volonté, à mon travail. Et puis ensuite, évidemment, New York, il y avait aussi ce bouillon culturel aussi qu'on peut retrouver là-bas, cette excitation, une ville qui ne s'arrête jamais.
J'aimerais retenir le « sky is the limit ». Aujourd'hui, par exemple, en France, sans être trop dans le détail, mais est-ce que tu comprends qu'effectivement, nous, le sky, ce n'est pas du tout la limite?
Alors, je pense qu'il y a une partie de...
Qu'est-ce qui nous freine chez nous, selon toi?
Moi, je crois qu'en fait... C'est toujours possible, mais c'est vrai que ça demande un effort différent selon les personnes. Et c'est vrai qu'il y a des destins incroyables, y compris en France.
On fait plus confiance aux États-Unis, tu penses?
Aux États-Unis, je crois que les codes sont moins établis. On voit que, par exemple, pour les gens qui créent des entreprises, le marché national est plus grand. Donc déjà, ça donne une dimension différente. L'accès au financement est aussi plus important qu'en Europe. Et c'est ce qui fait aussi que l'entrepreneuriat et que des grandes boîtes se créent aux États-Unis, peut-être un peu plus qu'en Europe. Pour autant, je pense qu'en France et en Europe, il y a de plus en plus de potentiel et de possibilités. Mais c'est vrai que ça demande quand même une volonté forte.
Alors, en 2006, tu reviens à Paris, tu deviens directrice marketing Europe de Garnier, la deuxième marque mondiale du groupe. Et 3 ans plus tard, tu prends la direction générale de L'Oréal Paris, la marque leader sur le marché stratégique de la France, définissant la vision et tu diriges plus de 160 personnes. Selon toi, c'est quoi ta méthode de management ?
Moi, je crois qu'il faut vraiment manager sur la base du sens. Il faut vraiment créer un collectif, de l'énergie autour du sens, d'un collectif. Et du coup, ça doit être un mix. Il faut vraiment savoir, quand on a des équipes larges, il faut savoir animer un collectif et il faut savoir aussi faire preuve de proximité. Moi, la façon dont je crée cette proximité, c'est vraiment en allant sur le terrain. Je prends beaucoup de plaisir à aller tourner sur le terrain, dans les magasins avec nos représentants. Je prends beaucoup de plaisir à aller dans nos centrales et aller voir les caristes, aller voir un quai d'expédition, voir comment ça marche, ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'échanger avec eux. C'est cette proximité, moi, qui m'enrichit, qui me rend meilleur, qui me fait comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et puis, le lien humain qu'on a dans ces moments-là, évidemment, il est d'une très grande richesse. Donc, voilà, c'est arriver à avoir un temps collectif où on anime de grandes équipes, tous ensemble, et puis c'est vraiment ce temps beaucoup plus personnalisé, one-on-one, où on va voir les personnes sur leur métier, dans leur métier, sur le terrain. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le faire.
Quelles sont les différences de management entre les États-Unis et la France, par exemple ?
Alors, les États-Unis sont beaucoup dans l'efficacité. L'efficacité dans le rapport au temps, dans le rapport à la prise de décision, y compris même dans les relations professionnelles. C'est assez transactionnel. La France, l'Europe, il y a un côté un peu plus latin. Donc, la proximité, l'humain est plus important. Voilà, moi, j'essaie d'associer les deux parce que finalement, je suis issue des deux mondes, de ces deux cultures professionnelles. Et pour moi, les deux sont tout à fait compatibles et sont très enrichissantes mutuellement.
Et là, aujourd'hui, en tant que directrice générale de L'Oréal France, tu manages 2000 collaborateurs. Comment tu motives tes troupes ?
Ben ça, encore une fois, ça revient au sens. Et moi, c'est vraiment mon enjeu.
Entre 2006 et 2022-2023, est-ce qu'il y a une différence ? Il y a des choses qu'on prend plus en considération aujourd'hui dans le management ?
Plus que jamais. Je crois qu'on voit l'énergie qui vient des équipes est très forte. C'est devenu très, très moteur sur les sujets RSE en particulier. On pourra peut-être en reparler. Clairement, il y a une attente très forte des collaborateurs qui veulent avoir du sens dans ce qu'ils font, qui veulent que l'entreprise pour laquelle ils travaillent, et donc et en l'espèce L'Oréal, soit vraiment acteur de la société et un impact positif sur la société. Et donc, ça crée une énorme énergie. Et ça crée de très bonnes idées et des idées qu'on capte et qui deviennent des projets, qui deviennent des actions concrètes. Ça, je pense que c'est très nouveau et différent. Donc, le monde de l'entreprise s'est beaucoup démocratisé aussi. Des organisations qui pouvaient être assez descendantes, maintenant, c'est devenu très ascendant. L'énergie, elle vient vraiment de toutes les équipes.
Est-ce que la clé aussi, ce n'est pas peut-être de donner plus d'autonomie aux personnes ?
Ça, toujours. Je pense que les jeunes, évidemment, ont envie d'entreprendre. Et c'est vrai qu'on le voit par la création d'entreprises. Et c'est vrai qu'arriver à créer cet esprit de donner envie d'entreprendre au sein d'une grande entreprise, c'est ça qui fait bouger les lignes aussi. C'est ça qui crée une nouvelle dynamique. J'ai à cœur effectivement de faire ça.
Et tu es passé également, tu as fait 3 ans d'infidélité au groupe L'Oréal. Tu es allé travailler chez Chanel. Qu'est-ce que tu y faisais ?
Alors j'ai eu la chance de passer une première année à travailler pour les maisons d'art. J'ai pu vraiment découvrir tous ces savoir-faire de main absolument exceptionnels. Et ça me touche beaucoup aujourd'hui parce que ma fille a pris le relais et étudie et apprend ces métiers-là, ces métiers de main de la mode. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la division parfum beauté au lancement de l'eau du 5 à l'époque. Voilà, il y a la stratégie internationale des parfums, des produits parfum beauté.
Quelles compétences tu as appris chez Chanel qu'aujourd'hui, voilà, tu t'en sers chez L'Oréal de nouveau ?
Je crois que Chanel a un rapport au patrimoine et au temps long qui les caractérise et qui font objectivement très bien. Et ça, je pense que c'est très inspirant. Je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, on doit gérer plusieurs temporalités. Aujourd'hui, le temps court, le temps long, tout ça sont des enjeux très importants. Et voilà, donc je crois aussi que maintenant, de retour chez L'Oréal, j'ai à cœur de travailler sur ces trois temporalités.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es partie et tu es revenue ? 3 ans après, hop, tu reviens en 2017 ?
Bah alors que tu le disais tout à l'heure, j'étais un bébé L'Oréal et je crois que ça, on ne se refait pas. J'avais gardé un très bon contact avec les nombreux collaborateurs et collègues de L'Oréal. Et au fond, que L'Oréal, c'est une très grande famille et j'ai eu envie de revenir dans la famille, de revenir à la maison.
Alors, la raison d'être de ta maison aujourd'hui, c'est notamment créer la beauté qui fait avancer le monde. Comment cela ça se traduit chez toi, chez L'Oréal France ?
Alors, nous, vraiment, la mission de la division pour laquelle je travaillais jusqu'à encore maintenant, peu de temps et qui maintenant reste dans mon scope, c'était vraiment de démocratiser le meilleur de la beauté. Et au fond, ça, c'est une mission qui me touche énormément. Cette division, les produits se retrouvent dans 41, sont utilisés par 41 millions de Français. Hein, donc, c'est vraiment cet enjeu de rendre accessibles tous les produits de beauté. Des produits comme Dope en shampoing ou en douche, c'est des produits qu'on peut trouver à 2 euros, qui sont d'excellente qualité. Donc, ça permet vraiment d'avoir accès.
C'est combien de marques, L'Oréal France ?
L'Oréal France, c'est une quarantaine de marques. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de marques patrimoniales dans le groupe, et en France en particulier. Et ces marques patrimoniales, elles sont vraiment dans la proximité des Français, elles sont dans l'accessibilité. C'est des produits voilà, qui permettent d'avoir accès à des produits essentiels d'hygiène à des prix accessibles. Et puis par ailleurs, à travers du parfum, à travers des produits de soins, de aussi se faire très plaisir.
Alors quelles sont vos nouveautés là ? Tu viens de prendre tout juste tes fonctions. C'est quoi ta feuille stratégique, on va dire, de décarbonation, on va dire, sur notamment l'année 2023 est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Chez Dove, déjà, vous êtes lancé dans le vrac, on en avait déjà parlé auparavant dans l'émission.
Sur les shampoings solides, effectivement. Non, on a une ambition très forte sur le packaging, sur la réduction très forte de l'empreinte plastique en particulier. On a passé 200 millions de shampoings et de douches en plastique recyclé. On lance des éco-packs de façon massive, parce que les éco-packs, ça réduit l'empreinte plastique de 80% par rapport à un flacon. On lance de la cosmétique solide aussi. Donc tout ce qu'on peut faire pour réduire ou remplacer l'usage du plastique sont vraiment des choses très importantes. Et puis le groupe a pris des engagements très forts sur tous ces sujets-là avec des horizons très courts.
Et comment vous communiquez justement tous vos engagements à vos clients ?
Alors, c'est vrai qu'on essaie de le faire savoir à travers les produits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas à faire des... On en parle, mais on ne cherche pas à faire de la publicité énorme autour. Ce qui est important, c'est d'agir. Donc nous, on est vraiment dans l'action. On veut agir et concrètement à travers nos produits, que ces produits parlent pour nous.
Et qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui peuvent vous dire parfois que vous faites du greenwashing ?
Moi, je crois que l'important, c'est d'être dans le concret. Donc à travers les actions que je vous décrivais là. Et puis ensuite, il y a des critères objectifs. On a été nommé triple A par le Carbon Disclosure Project. Je crois, le seul groupe pour sa 7e année d'affilée à avoir reçu ce triple A. Et je crois que ça, c'est vraiment une caution externe qui témoigne du travail qu'on fait.
Quelle est ta vision justement de cette prise en considération de la RSE au sein du groupe L'Oréal au fil des années ? Est-ce que en termes de packaging, en termes de cycle de vie, en termes de refonte parfois peut-être de formulation, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?
Bah vraiment, cette prise en charge du sujet du plastique, vraiment, c'était une mobilisation majeure.
Ouais.
Bah, c'est le plastique, mais c'est aussi à travers la décarbonation de nos sites. C'est vraiment toutes ces choses très concrètes qu'on fait. Par exemple, on vient d'ouvrir une nouvelle centrale de distribution. Elle est équipée de chaudières biomasse, elle est équipée de panneaux photovoltaïques. Donc, ça permet vraiment une forme d'autonomie énergétique. Donc, on est aussi très, très vigilant sur la consommation d'eau de nos sites. On a évidemment réduit la température de nos bureaux à 17 degrés. Donc, c'est vraiment des choses très concrètes qu'on fait tous les jours pour agir sur ce sujet important.
À quoi ressemble une journée avec toi, Céline ?
Intense. Ça commence tôt, ça s'enchaîne.
C'est quoi ton rituel est-ce que tu as une morning routine, par exemple ?
Oui, alors je me réveille tôt et je commence toujours ma matinée par un petit échauffement physique.
Salutations au soleil.
Alors, pas forcément. Je fais un peu de gainage et puis surtout un gros travail de respiration pour vraiment commencer la journée bien ancrée et calme, en fait, parce que le reste de la journée ne va pas beaucoup l'être. Donc, c'est important déjà qu'au moins le matin, je démarre sur de bonnes bases. Ensuite, j'arrive au bureau. Et j'enchaîne voilà, des points de rencontre avec les équipes. Moi, mon quotidien, c'est de voir des gens. Je ne suis jamais toute seule à mon bureau, ça c'est sûr. Je déjeune souvent à mon bureau, en revanche, avec une salade attrapée sur le coin de mon bureau ou en déjeunant avec d'autres collaborateurs. Et puis, voilà, la journée, elle s'enquille vite. Et puis, c'est vrai que j'ai à cœur ensuite de pouvoir rentrer à une heure décente pour passer du temps avec mes enfants.
Tu dis que tu rencontres beaucoup de monde. Est-ce que dans toute cette carrière qui est riche, il y a une personne qui t'a impressionné, qui t'a marqué ?
Alors oui, il y a une femme qui est une ancienne coach, une coach professionnelle, une femme extraordinaire qui s'appelle Catherine Chouard, qui a eu un impact incroyable sur ma vie à un moment pas forcément très facile, personnellement et professionnellement, et qui est vraiment une femme très puissante, puissante intellectuellement, puissante humainement, et qui m'a vraiment aidée à savoir justement, à avoir gardé un bon équilibre, à savoir relativiser, voilà, qui m'a fait beaucoup progresser.
Quel est ton conseil ? C'est une question que je pose à tous mes invités. Quand tu es face à un no-go, voilà, dans tes choix professionnels, comment tu le prends ? Et est-ce que ça te motive ? Est-ce que ça te démoralise ? Et c'est quoi ta recette, selon toi ? Qu'est-ce que tu fais ?
Ce que avec le temps, j'ai appris à faire, c'est à différer. C'est-à-dire qu'un no-go n'est pas forcément un no-go définitif. Surtout quand on a une conviction importante qu'il faut porter le sujet. Donc, alors, c'est quelque chose que j'ai appris. Hein, parce que c'est vrai que plus jeune, certainement, je me heurtais à ce mur et que ce n'était pas forcément un moment très agréable. Maintenant, j'ai appris aussi à essayer de comprendre pourquoi on m'opposait un no-go à un moment donné. Et d'analyser un peu la situation et de différer, de savoir voilà, justement identifier que peut-être un autre moment, savoir voilà, attendre un peu que le moment soit plus propice pour refaire valoir le point. Et je trouve qu'en acceptant de différer, en revenant peut-être avec d'autres arguments ou en tenant compte du point de vue des personnes qui pouvaient s'opposer à cette décision, qu'on a une bonne chance que la décision finisse par se faire.
Donc, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand on est face à un no-go, eh ben, on revient, on retente avec une nouvelle proposition.
Exactement.
Et on ne se démoralise pas.
Absolument.
Et une question que je pose également à tous mes invités, aussi bien féminins que masculins, c'est comment tu arrives à équilibrer ta vie entre ta vie professionnelle et perso ?
Alors,
comment tu trouves ton équilibre ?
Tout ça, évidemment, c'est très personnel. Moi, c'est vrai que j'ai besoin aussi de moments de ressourcement intérieur. Donc moi, comme je passe beaucoup de temps avec des gens toute la journée, moi, j'ai besoin, à titre personnel, de passer du temps avec moi-même de temps en temps. Et après, j'ai une hygiène de vie, alors que certains pourraient trouver un peu monacale, mais moi, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'une hygiène de vie, voilà, un peu de sportif de haut niveau dans le côté assez restrictif. Que ce soit sur un plan alimentaire, sportif ou, voilà, ou de sommeil. C'est-à-dire que je veille vraiment à avoir une vie très équilibrée.
Tu dors combien de temps ? Tu fais quoi et tu manges quoi ?
Alors, je suis une grosse dormeuse. Hein. Je dors de 8 à 9 heures par jour. C'est important pour moi. Et je suis une couche tôt, lève tôt. Et ça aussi, c'est important que je respecte ce cycle qui est nécessaire pour moi. Je veille effectivement à mon alimentation. Récemment, mon médecin du travail m'a vraiment engagée et je m'y attelle à faire 3 fois par semaine du cardio parce qu'il faut justement entraîner le cœur et la masse musculaire. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont assez simples, somme toute, mais qui demandent de la rigueur, en fait. Et c'est vrai que j'applique pas mal de rigueur à cette hygiène de vie.
Alors, tu parles de te ressourcer, à part avec toi-même, justement. Tu aimes te rendre où avec toi-même pour te ressourcer ?
Au Pays Basque. Ma région de cœur, c'est le Pays Basque. C'est un endroit, c'est au fond ma maison de cœur et ma maison de famille, parce que c'est mon père était d'origine basque. Donc, c'est une région qui a beaucoup, beaucoup de sens, beaucoup de profondeur. C'est une région très riche en tradition et en histoire. Donc, c'est un endroit où j'ai besoin d'aller toutes les 6 à 8 semaines. Et j'y vais. Et ça me fait toujours un bien fou. Quand je commence à voir l'architecture basque poindre par les fenêtres du TGV, je sens que je rentre à la maison, que j'arrive à la maison. Et ça me fait beaucoup de bien.
Et quand tu es à la maison, tu es plutôt derrière le fourneau ou tu commandes ? Ou quelqu'un cuisine à la maison ?
Je ne suis pas commande. Je n'aime pas tellement commander, en fait. Donc, c'est plutôt des choses simples qu'on fait en famille. De façon très simple.
C'est quoi ton plat préféré ? Alors, si on veut te faire plaisir, quoi, on veut t'inviter à déjeuner, on te prépare quoi?
Alors, ma Madeleine de Proust, c'est le merlu à l'espagnol, mangé chez Panchoa, un restaurant au Pays Basque, sur le petit port de Socoa, à Cibourg. Voilà, c'est un endroit et c'est un plat qui me ramène à mes racines basques.
Et actuellement, sur ta table de chevet, on retrouve quoi?
En termes de livres, alors peut-être deux livres qui sont importants pour moi. Un, La promesse de l'aube, parce que c'est vraiment, voilà, j'ai un fils, donc le rapport mère-fils, c'est important. Et ce livre est un beau témoignage de cet amour incroyable entre mère et fils. Et puis, un livre américain que je trouve passionnant et que je recommande surtout en ces temps un peu chaotiques dans le monde, c'est Atlas Shrugged de Ayn Rand. Ça s'appelle La grève en français. Le titre en français n'est pas très heureux. C'est un livre assez incroyable d'anticipation qui date des années 50, écrit par une femme. Et c'est un livre extrêmement puissant que je recommande à tous.
Quels sont tes futurs projets ou voyages en 2023?
Alors, je reviens d'Égypte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un voyage un peu loin. C'était merveilleux de revenir dans un pays historique où j'étais allée enfant. Ça m'importait d'y emmener mes enfants à mon tour. Donc voilà, un voyage vraiment mythique. Et puis, je vais bientôt aller à la montagne pour m'aérer la tête et voir aussi cette nature encore préservée en Autriche.
Et tes grands momentum chez L'Oréal en 2023?
Alors, avec cette prise de poste importante, ça va être une année de première. Hein. C'est, pour moi, ça va être très important de rencontrer toutes ces équipes de L'Oréal France, de les faire travailler ensemble, de créer ce nouveau collectif qu'on doit faire pour pouvoir rayonner pour le groupe dans son pays historique.
Et pour terminer, la question la plus complexe, quelle est ta raison d'être personnelle, Céline Brucker?
Moi, ce qui m'importe, c'est d'être utile. Être utile pour mes proches, être utile pour les équipes autour de moi et au sein de L'Oréal, faire en sorte qu'on ait un impact très positif sur la société.
Eh bien, merci infiniment, Céline, d'être venue, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps, surtout sur ce nouveau poste qui te demande beaucoup, beaucoup d'attention. Merci infiniment, Céline. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Bye bye.